Donc je prends très rapidement la parole pour commencer, pour vous souhaiter la bienvenue à toutes et à toutes dans cet amphithéâtre Louis Liard. C'est un honneur pour nous, comité d'organisation du colloque, d'avoir pu organiser cette manifestation dans l'enceinte historique de la Sorbonne. Même si, comme vous l'avez remarqué, la contrepartie d'être dans un lieu chargé d'histoire, c'est que l'équipement de l'amphithéâtre est pas d'époque, il ne faut pas exagérer, mais donc peut-être pas totalement adapté aux technologies et aux manifestations scientifiques du XXIe siècle. Mais néanmoins, j'espère que vous allez passer deux journées intéressantes, stimulantes et conviviales dans ce cadre, sous le regard, vous l'avez remarqué, de tous les grands hommes qui nous observent.
C'est un très grand honneur pour moi, en qualité de président de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, d'accueillir dans le cadre un peu kitsch, il est vrai, mais solennel, de l'amphithéâtre Louis Liard de la Sorbonne, ce premier colloque international et pluridisciplinaire consacré à la prise en charge des femmes excisées quelques jours avant la journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines. L'excision est, vous le savez, à la fois un enjeu de santé publique et un enjeu de droit humain de la première importance, qui concerne 130 millions de femmes et de fillettes dans le monde. Voilà plusieurs décennies maintenant que les institutions internationales se mobilisent pour l'éradication de ces pratiques néfastes aux effets délétères sur la vie des femmes concernées. Depuis le début du XXIe siècle, on assiste à une convergence des politiques publiques nationales et internationales en matière de santé publique, de législation et de recherche sur l'excision. Ce colloque sera, j'en suis sûr, l'occasion de faire un état des lieux grâce à la présence de très nombreux spécialistes qui sont venus de nombreux pays et d'horizons disciplinaires différents pour discuter et mettre en commun leurs connaissances. C'est pourquoi je suis particulièrement heureux d'introduire ce colloque qui s'inscrit à plusieurs titres dans la dynamique de mon université. D'abord parce qu'il est organisé en collaboration avec d'autres partenaires, Madame Andreau vient de le rappeler, en particulier le CADIS de l'EHESS, dont le directeur Philippe Bataille est à mes côtés, et l'IDUP de l'Université Paris. Madame Andreau a joué un rôle particulièrement important dans l'organisation de cette journée et je voudrais l'en remercier. Le colloque, d'autre part, revêt une forte dimension internationale et je crois que c'est le second point d'importance qu'il convient de souligner. Il permet la rencontre de collègues des pays du Nord et des pays du Sud, de collègues venus aussi d'outre-Atlantique, et cette mobilisation de la communauté scientifique européenne, américaine, internationale, est évidemment au cœur de ce projet qui dépasse très largement les frontières des nations. Enfin, le troisième point que je voudrais souligner est le caractère interdisciplinaire, pluridisciplinaire, transdisciplinaire, comme vous le voudrez, de cette rencontre. Et je crois qu'elle rencontre ici l'une des caractéristiques structurantes, non seulement de ma propre université, qui est à la fois une université de droit, d'économie et de sciences humaines et sociales, mais aussi la dimension extrêmement large de la question de l'excision. Le dialogue interdisciplinaire est au cœur de vos interrogations et je crois qu'il est particulièrement important, en lisant le programme de votre rencontre, de voir comment les spécialistes de santé publique peuvent rencontrer aujourd'hui les spécialistes de sciences sociales et humaines et aussi les praticiens de la lutte contre l'excision autour d'un sujet si important. Je suis donc convaincu que cette rencontre sera fructueuse et constructive et je vous souhaite bien sûr le colloque le plus intéressant possible. Je vous remercie.
Je voudrais souligner dans cette dynamique sur laquelle vous vous arrêterez toute la journée, cette rencontre entre des médecins et des chercheurs en sciences humaines et sociales. Le bord-à-bord, le pot-à-pot du social et du médical est souvent sollicité, mais il est ici pour précisément faire pénétrer dans l'espace public et dans les consciences globales et mondiales des questions qui aussi cruelles soient-elles, aussi définitives soient-elles, ont aussi une dimension locale et qui sont inscrites sur des territoires où il est difficile précisément de faire rentrer cette connaissance et cette capacité peut-être de renverser, c'est ma deuxième remarque, de renverser des représentations sociales, des pratiques, des croyances dont le champ de la connaissance, je crois, peut aider dans le même esprit que ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire la sollicitation des sciences humaines et sociales, des disciplines sur lesquelles travaillent nos universités, nos UMR, nos établissements et surtout nos étudiants. Eh bien, précisément, cette connaissance sert à faire avancer les consciences, faire reculer les savoirs déjà acquis, les manières de faire, les manières de penser et surtout les manières d'agir, et encore plus lorsque ces manières d'agir sont des violences, sont des crimes, sont des fautes qui détruisent indiscutablement ceux qui sont concernés. Au-delà des personnes, ce sont des genres aussi, le genre féminin, dont il est question ici, et je crois important d'apparaître clairement avec cette dynamique, avec cette dimension, pour interpeller, puisque, et c'est ma troisième remarque, les questions qui vont être mises en perspective, les réflexions qui sont les vôtres, les connaissances peut-être que vous avez déjà accumulées, servent à mes yeux aujourd'hui à renouveler le champ de l'éthique dans sa dimension la plus universelle. Le disant, je m'accroche aussi à ces termes déjà utilisés, du global, du mondial, ces circulations, ces imaginaires sociaux, ces dimensions quasiment anthropologiques, contemporaines, qui se renouvellent tout en restant parfois dans la tradition. Eh bien, tout ça, aujourd'hui, peut être revisité par le champ de l'éthique, dès lors qu'elle a une dimension universaliste. Et c'est pour ça que la présence des médecins, la capacité d'un milieu médical déjà engagé dans la lutte contre des pratiques qui seront ici dénoncées, mais surtout déjà engagées dans la capacité de réparation, c'est-à-dire de permettre au sujet de redevenir un sujet dans son rapport avec les autres, eh bien, je pense que la médecine porte cette dimension universaliste jusqu'à la décliner dans une forme humanitaire dont la présence de l'UNICEF, marquée par sa présidente, rappelle à la fois toute l'importance et puis aussi toute la perspective, toute la largeur du spectre faisant qu'on ne saurait dans cette salle avoir d'interdit. Je vous invite au contraire à oser et effectivement à réussir ce projet qui est de pénétrer l'espace public et les consciences globales par rapport à des problèmes qui ne sont ni particuliers ni singuliers et qu'on ne saurait traiter dans un universalisme autre qu'universaliste.
Bonjour à toutes et à tous. En tant que présidente d'Excision Parlons-en, je suis très heureuse que notre association ait pris part à l'organisation d'un tel colloque aux côtés de l'IDUP et du CADIS. Ce colloque d'experts, ça vient d'être rappelé, est un événement totalement inédit, car c'est la première consultation internationale d'experts consacrée à la prise en charge des femmes excisées en matière de santé et de droit. Alors les échanges qui vont avoir lieu entre vous, chercheurs en sciences sociales, professionnels de la santé et militants de la lutte contre l'excision, vont permettre, j'en suis sûre, une transmission des connaissances entre professionnels pour finalement former un véritable réseau d'experts. Et c'est justement cette démarche qui correspond tout à fait à nos objectifs de travail en réseau et de mutualisation des expertises. Excision Parlons-en, qui est une plateforme d'associations travaillant à l'abandon de l'excision, croit fermement que pour venir à bout des mutilations sexuelles féminines en France, en Europe et dans le monde, il faut tout d'abord évidemment libérer la parole, mais aussi, c'est très important, travailler en réseau à l'adoption de stratégies multisectorielles, transversales et participatives. Aujourd'hui en particulier, alors que 3 millions de filles sont encore menacées chaque année d'une excision et que la pratique prend de nouvelles formes dans certains pays, il faut plus que jamais travailler en réseau avec les professionnels de la santé, mais aussi avec d'autres experts, rappeler ensemble la dangerosité de l'excision, appréhender toutes les complexités du phénomène, depuis la prévention jusqu'à la réparation, en passant par la prise en charge ou la condamnation. Je suis certaine que ce colloque permettra de dégager ensemble des solutions pour protéger les filles et des recommandations pour améliorer la prise en charge des femmes excisées. Excision Parlons-en sera ravie de les relayer au sein de son réseau, comme nous le faisons au quotidien à travers notre site internet, notre newsletter, et comme nous le faisons aussi depuis une semaine avec le tout dernier numéro de Développement et Santé, spécial Excision, que nous avons collaboré à rédiger, dans le but de sensibiliser les professionnels de la santé aux risques, aux réalités et à la nécessité de ne pas perpétuer la pratique. Donc cet exemplaire est ici, vous pourrez en avoir un à la sortie, on va les installer. Je fais un peu de publicité au passage pour... Non, je pense que c'est vraiment un document qui est important aujourd'hui puisque c'est un colloque santé. Donc voilà, nous sommes certains que cette publication qui fait l'état des lieux des connaissances médicales trouvera vraiment sa place dans les débats et dans le cadre de vos travaux. En attendant, je me réjouis de passer ces deux jours parmi vous et je reste à votre disposition pour poursuivre ces échanges et je renouvelle les remerciements aux institutions qui nous ont soutenus pour organiser ce colloque et merci à vous tous d'être venus si nombreux aujourd'hui.
Je suis fière de pouvoir compter UNICEF parmi les partenaires de cette consultation internationale qui constitue une réunion fondamentale dans le domaine de la recherche et du partage d'expériences sur la prise en charge des femmes excisées. Le combat juridique mené depuis des dizaines d'années commence à porter ses fruits. Aujourd'hui, les mutilations sexuelles féminines sont reconnues par de nombreux instruments juridiques internationaux comme l'une des violations les plus barbares des droits fondamentaux des femmes. 26 pays ont adopté des lois qui condamnent explicitement les mutilations génitales féminines. Cependant, le combat est loin d'être gagné. Chaque année, 3 millions de fillettes et de jeunes femmes subissent une mutilation sexuelle, soit une fillette ou une femme excisée dans le monde toutes les 15 secondes. Selon le dernier rapport de l'UNICEF, publié l'été dernier, qui sera d'ailleurs commenté dans quelques minutes par Claudia Capa, 125 millions de filles et de femmes actuellement en vie dans 29 pays d'Afrique et du Moyen-Orient ont subi une forme de mutilation sexuelle. 125 millions de filles et de femmes marquées, parfois handicapées à vie, au nom de traditions devenues normes sociales. Et 30 millions d'autres filles risquent d'être victimes de ces pratiques dans les 10 prochaines années. L'excision, il faut le savoir, est encore une pratique quasiment universelle. À Djibouti, 93% des femmes sont excisées ou subi des mutilations sexuelles. En Égypte, 91%. En Guinée, 96%. Et en Somalie, 98%. Sur le terrain, UNICEF continue de se mobiliser en combinant tous les niveaux d'action possibles pour pouvoir endiguer le phénomène et encourager les parents à abandonner cette pratique. Ce combat, UNICEF le mène avec tous les acteurs de la société, des communautés au sommet de l'État, en passant par les associations, les intellectuels, le corps médical, les religieux, les acteurs de soins, les enseignants, les pères et les maris. Nous devons combiner tous ces niveaux d'action pour obtenir des progrès tangibles. Et vous avez tous bien souligné à quel point cette transversalité, ces rencontres de pluriresponsabilité sont tout à fait essentielles pour garder ce niveau d'action et lui donner encore plus d'efficacité. Élément encourageant, l'excision recule dans un grand nombre de pays. Le soutien des femmes à cette pratique est en baisse. Et vous savez, les femmes ont elles-mêmes beaucoup soutenu cette prorogation des normes sociales qui leur ont imposé ces pratiques, y compris dans les pays à forte prévalence. De plus en plus d'hommes de différentes générations sont eux aussi pour l'abandon de l'excision et c'est un facteur très très important. Nous devons construire sur ces progrès et investir sur ce qui marche, le travail en profondeur avec les communautés et les religieux, le plaidoyer auprès des États pour un renforcement législatif, l'éducation, la lutte contre les mariages forcés et précoces, et plus globalement, le combat pour l'évolution du statut de la femme et de la petite fille. À ce titre, je voudrais insister particulièrement sur le fait que l'accès des filles à l'éducation est la pierre angulaire de la lutte contre les violences à l'encontre des filles et des femmes, quelles qu'elles soient. S'ouvrir et accéder au savoir, c'est développer son autonomie et sa liberté de choix. C'est mettre la distance avec les traditions séculaires. C'est être en capacité de dire et de ne pas reproduire, de dire non et de ne pas reproduire l'inacceptable sur ses propres enfants. En France, vous le savez, selon la revue Population et Société, c'est un chiffre ancien mais il vaut la peine d'être donné quand même, en 2007, le nombre de femmes et de fillettes mutilées ou menacées de l'être était estimé entre 42 000 et 61 000, soit une hypothèse moyenne de 53 000 femmes, ce qui fait quand même importance. Inscrite dans la continuité de la conférence de février dernier au ministère des Affaires étrangères, la consultation que nous nous apprêtons à mener aujourd'hui aborde, au-delà de la prévention et de la sensibilisation, les soins et l'accompagnement qui peuvent être apportés aux femmes qui continuent de mener leur combat pour mener une vie normale. C'est également parce qu'elle constitue une atteinte grave aux droits sexuels et reproductifs des femmes que les mutilations sont une agression intolérable à leur liberté, à leur dignité et à leur intégrité. Et c'est également pour restaurer cette intégrité et accompagner les femmes dans l'exercice de ce droit que nous sommes réunis aujourd'hui. Et d'ailleurs, je me réjouis personnellement que cet aspect de la prise en charge et reconstruction soit au cœur de notre réflexion. En tant que femme, médecin gynécologue, ancienne ministre de la Santé et membre de l'association Équilibre et Population, je me suis investie durant des années sur le plan professionnel et associatif pour faire avancer le combat pour la reconstruction physique et psychologique des femmes victimes des mutilations. Mesdames, Messieurs, ce colloque constitue un véritable pas en avant dans la réflexion et la mise en commun des savoirs et des pratiques relatifs à la santé et la sexualité des femmes excisées. La pluralité des intervenants traduisent cette volonté de travailler ensemble. Je salue aussi l'engagement du gouvernement, qui malheureusement n'est pas représenté aujourd'hui, mais je sais quel est son intérêt pour cette question, et je pense qu'on peut compter sur lui et sur sa représentante, Madame la secrétaire d'État, qui sont indispensables dans ce combat en France et dans le monde. Je voudrais aussi, Marion Schaeffer, vous redire à quel point je salue votre action, très pragmatique, très concrète, très efficace, et je pense qu'on mesure au travers de vos paroles aujourd'hui le chemin qui a été parcouru depuis la dernière réunion où nous étions ensemble. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente conférence et des débats fructueux en considérant que d'abord je salue le fait qu'il y ait aujourd'hui ici beaucoup de représentantes et de représentants internationaux et que surtout on ait réussi à faire cette jonction indispensable et forte entre les droits fondamentaux, les droits pour la santé, les droits à la réparation et surtout une notion forte d'à quel point nous souhaitons soutenir les femmes et les aider à ce que cette cause régresse. Et comme vous le savez aujourd'hui, on sait à quel point le travail qui est fait autour des normes sociales qui sont devenues le driver de la continuité de ces questions et de ces problématiques doit être soutenu. Et c'est ce travail multiforme qui va permettre de faire avancer en même temps l'ensemble des questions qui doivent bouger, qui doivent régresser. J'ai dit, et je le redis, l'excision, les mutilations génitales sont encore incroyablement élevées, mais elles reculent. On sent, et vous le verrez au travers de ce que va vous dire Claudia Capa, des pays dans lesquels ces normes étaient la norme, font aussi régresser ces causes. Et donc je pense qu'au-delà des efforts que nous faisons, laissons aussi prévaloir un certain optimisme pour l'appuyer. Merci beaucoup.
Saïda Barkat Daoud, coordinatrice du colloque et doctorante en sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales. Au nom du comité de pilotage, notamment au nom de Béatrice Cuzin, du docteur Béatrice Cuzin, de Louis Guinamard, d'Armel Andreau et de moi-même, je vous souhaite la bienvenue à la première consultation internationale sur la prise en charge des femmes excisées, et je déclare ouvertes les sessions.